Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h03 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. C'est la deuxième heure de Roten sans flamme. On va se régaler vraiment encore avec nos correspondants. On va lancer la 23e journée de championnat de Ligue 1. On est avec Benoît Boutron, avec Jean-Michel Larquet et avec Steve Savidan. On a passé une bonne première heure. Vraiment, c'était génial.
Super.
Voilà, on est un peu en avance. J'ai dit 19h03, il est 19h02. Hein, je suis désolé. Donc, voilà, Benoît, deuxième heure, fantastique.
J'ai une coulisse parce qu'on est un peu en retard. Notre producteur lui dit ne dis pas l'heure. Il démarre, il dit l'heure.
Mais j'ai pas dit la bonne.
Oh, c'est incroyable. Le dernier quiz de la semaine, soyez en forme.
Hein. Mais les jeunes ne savaient plus lire l'heure.
C'est vrai, t'as vu ça avec ça. Les écrans digitaux, les jeunes ne savent plus lire l'heure sur une horloge à aiguille.
Ah bon, mais ils savent le lire quand t'es.
Voilà,
quand,
bah quand même, horloge digitale.
Ça dépend des. Bon, ça dépend des jeunes quand même.
Ça dépend des jeunes, mais c'est une priorité dans la vie de savoir lire l'heure.
Mon fils, il a 11 ans, il sait lire l'heure.
Bah, tant mieux. Le cadeau, c'est une enceinte portable de la marque française Muse. Très beau cadeau. 60 watts de puissance et des effets lumineux, donc 32-16 touche 4 ou quiz au 7-32-16. La tradition du vendredi, c'est le multi.
Allez, lâchez le
volant. C'est Roten sans flamme.
Égalisation de Jean-Michel Larquet sur ce coup franc.
Ah bon, un coup franc. Ah bon,
un but extraordinaire de pureté.
Savidan qui va frapper en force. Savidan. Oh, le but de Steve Savidan. Le doublé. Quel coup franc de Savidan.
Eh, faut pas frapper, Roten. Ne frappe pas. Il frappe quand même.
Lancement de la 23e journée de Ligue 1. Ah bah là, on pourrait déterminer lequel est le plus beau.
Le mien, je sais pas. Le mien, c'était un Nice Bastia.
Ouais. Ah, au stade du Ray.
Au stade du Ray. Donc je peux te dire que l'ambiance était incroyable. Et face à la tribune Nord. Oh, qu'est-ce que c'était bon quand même.
Tu as fait un cœur.
Valenciennes Marseille. Alors t'imagines un VAOM.
Ouh.
Ah oui.
Ah ouais, VAR.
Ça a aussi de l'impact.
Ah ouais,
ok, oui, j'imagine. Ouais. Et toi, Jean-Michel, c'était contre qui ce coup franc ?
Contre Béziers, non ?
J'en ai marqué tellement que je vais. Peut-être en demi-finale de la Ligue des Champions, peut-être.
Ouais, c'est ouais, c'est ça.
Oh, toujours plus.
Non, celui-là, c'est Mont-de-Marsan.
Non.
Non, mais.
Ah non, c'était le Racing Paris en 49, apparemment.
Pourquoi toujours plus ? Parce que. J'ai pas marqué en demi-finale de la Ligue des Champions.
Mais si.
Un coup franc.
Si, si.
Ah si, mais si, malheureusement, on se souvient surtout de la finale et des poteaux carrés. C'est toujours le même problème.
Ouais.
Allez, accueillons nos correspondants.
Ah, bah, il était beau quand même.
Pierre-Yves Leroux est là. Salut Pierre-Yves.
Ah, Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
Salut Pierre-Yves, ça va ?
Ça va très bien. Bien sûr, ça va très bien.
Maxime Tilliette est là. Salut Maxime.
Salut Maxime. L'équipe, bonsoir à tous.
En pleine forme, Maxime.
Et tu l'as réclamé, Jérôme. Jean Baumel est là, salut Jibo. Oui.
Salut Jibo. Salut Jérôme, Jean-Michel, Steve et bonsoir tout le monde.
Eh oui, parce que c'est la belle affiche de cette journée. Demain, 17h sur RMC, Lens Monaco à Bollaert. Lens leader, un point d'avance sur le PSG qui jouera un peu plus tard, un PSG Metz demain soir à 21h. En face, on a Monaco qui affronte donc le leader entre les deux matchs de barrage de Ligue des Champions. On rappelle que Monaco a perdu contre le PSG à Louis II. 3 buts à 2 après avoir mené 2-0. Monaco est 8e de Ligue 1, à 3 points du top 5. Djibo, parle-nous de Lens, de l'actu lensoise et de cette date qui obsède les Lensois. Le 12 avril, la réception du Paris Saint-Germain.
Alors, c'est le week-end du 12 avril, parce qu'on sait
c'est
pas.
C'est le week-end
encore.
Du 12, t'as raison.
Si Paris est encore qualifié en Ligue des Champions, bah, ça sera, a priori, ça sera pas le dimanche, parce que Paris jouait le mardi ou le mercredi. Mais c'est vrai que, j'ai posé la question à Pierre Sage que la défaite de Paris à Rennes et puis le match un petit peu compliqué où ils ont été menés par Monaco, est-ce que ça donnait, un petit peu plus d'espoir dans l'état d'esprit des Lensois pour viser le titre?
Nuancerait quand même la position par rapport au PSG, parce que même mené 2-0, même en loupant un pénalty, ils ont été capables de l'emporter. La performance de retourner un match comme celui-ci en revenant à 2-2 avant la mi-temps en ayant loupé un pénalty est déjà de haut niveau. Et à partir du moment où elle est dans la décision de l'emporter, elle fait tout ce qu'il faut pour le faire. Pour l'instant, on s'attache à préparer notre match à Monaco. Si toutefois on arrive à enchaîner dans cette même logique tous les matchs qui vont précéder le peut-être rendez-vous du 12 avril, à ce moment-là, on se tournera vers ce rendez-vous-là. Ah, et l'idée, c'est évidemment d'être compétitif à ce moment-là et d'avoir quelque chose à jouer à ce moment-là.
Donc, ce qu'il faut, tu l'as retenu, Jérôme, c'est d'être en position de passer devant, de rester devant le Paris Saint-Germain le week-end du 12 avril. Bah, il y a quand même.
Il m'a endormi, je te le dis tout de suite. Hein, il m'a
perdu. Mais t'as vu, il n'y a pas longtemps, à la mi-temps, il n'est pas pareil hein, dans le vestiaire.
Et même Adrien Thomasson nous l'a dit sur RMC dans l'after. Il a dit, il a des discours motivants.
C'est sa force, parce que les équipes adverses, elles l'écoutent parler, et là, elles s'endorment, et paf.
Tu sais, il y en a un qui était comme ça et Steve l'a connu. Daniel Leclerc qui était très calme sur le banc et je pense qu'il pouvait pousser des gueulantes dans le vestiaire, mais le calme de Sage et de Leclerc, le parallèle,
Était aussi chiant en conf de presse, en communication.
Daniel.
Je trouve qu'il avait un peu plus de gaz, il était plus
pince sans rire, mais il est pince sans rire aussi.
Vous êtes dur, Pierre Sage.
Mais c'est pas grave. Moi, on parle foot là, je le taquine sur sa communication. C'est vrai qu'il a une voix. Moi, elle m'endort. Mais peu importe. Après,
les joueurs sont transcendés.
Ça endort pas ses joueurs et c'est l'essentiel.
Pas 17 victoires en 22 matchs.
Mais c'est pour ça, Thibaut.
Tu permets de le taquiner et je pense qu'il le prend pas mal.
Heureusement encore. Depuis maintenant, je pense qu'il connaît.
Bienvenue dans Rotten sans flamme d'ailleurs.
On parle quand même de ce match contre le PSG, mais c'est quand même pas tout de suite. Hein. Entre temps, tu auras quand même demain après-midi d'ailleurs. Si Lens gagne contre Monaco, ça sera le record historique du nombre de victoires consécutives à Bollard. Là, on est à égalité avec 10, comme avec Francaise en 2022-2023. 11 victoires consécutives à Bollard, ce n'est jamais arrivé. Donc on verra ça demain après-midi.
C'est incroyable ça.
Et après, tu auras avant le PSG quand même un déplacement à Strasbourg. Il y aura Metz, il y aura Lorient, Angers. Un derby contre Lille quand même la semaine précédente. Donc c'est pour ça que
vu l'état de ton club pas bien.
Écoute, un derby, le problème c'est que là tu retrouves ta motivation quoi qu'il arrive.
Oh là, on part de loin à Lille quand même.
Et ils finissent à Lyon, ça c'est un mauvais souvenir en 2002 puisque à Lyon, ils avaient perdu tendaient les bras.
Djibo, sans parler du calendrier, parce que on peut tirer tous les plans sur la comète qu'on veut et se projeter à 7-8 journées mais là, le match de demain, pour moi, c'est un vrai tournant.
Alors, tu sais quoi, on en parle dans un instant.
Ah bon ?
Après les infos monégasques avec Maxime Tilliette.
À noter, vite fait, Sangaré, on a eu le groupe tout à l'heure, est vraiment forfait. Bulatovic, Ouaidara. Baïdou, c'était dans les tuyaux, il ne sera pas non plus dans le groupe demain.
Deux infos importantes. Oui, Max, on voulait faire un point sur l'état des monégasques. La digestion de ce match particulier en Ligue des Champions mardi. Ils menaient 2-0. Ils ont même eu la chance de stopper un pénalty raté par Vitinha, et malheureusement ils ont perdu ce match.
Ouais, le terme est bon, digérer, surtout physiquement, parce que ils ont beaucoup couru derrière le ballon en première période et aussi énormément en seconde période en infériorité numérique. Donc déjà hier, pas mal de joueurs étaient au repos, entraînement léger en salle plutôt que sur le terrain, à Cliouche et Zakaria notamment. D'ailleurs, le Suisse sera présent demain, il était incertain. En revanche, Marnes à Cliouche sera absent du groupe. Il est ménagé pour aussi soigner un petit peu sa gêne à la hanche. Et puis il y a deux autres absents, c'est Vanderson et Golovin qui sont suspendus. Mais ça commence un peu à tirer la langue, forcément, à Monaco, qui a déjà joué 9 matchs de plus que Lens cette saison. Le tout avec un effectif parfois limité, une infirmerie qui tourne à plein régime depuis un petit moment. Mais bon, sportivement, ça va un petit peu mieux avec ces 7 points pris sur 9 en championnat, ce qui permet de revenir à 3 longueurs de Lille et Rennes, les 5 et 6e. Et d'ailleurs, Sébastien Pocognoli en a parlé. Il croit encore à ses places européennes.
J'essaie toujours d'être le plus ambitieux possible. J'essaie aussi d'être stable par rapport aux ambitions, parce que parfois, si on est hors de la réalité, on peut aussi perdre la confiance des gens qui nous entourent. Mais je pense que l'optimisme et vouloir faire le maximum pour viser le plus haut n'a jamais sacrifier quelque chose de positif ou de négatif. Je pense qu'il faut rester cohérent. Je pense que si on est cohérent, on a encore une chance de se qualifier pour le football européen. Donc mon mot d'ordre, c'est d'y croire le plus possible.
Ouais, donc il y aura ce match très important là à Lens, mais il y aura forcément dans les têtes le match retour face au Paris Saint-Germain mercredi, parce qu'il y a finalement qu'un seul petit but de retard et ils peuvent encore se dire que tout est possible.
Bon, ce sera dur, hein, mais on suivra ce match sur RMC mercredi avec un Rotten sans flamme en direct du Parc des Princes. D'ailleurs, je vous l'annonce. Lens Monaco, est-ce un tournant donc pour les Lensois? Toi, tu te dis, c'est pas si facile que ça pour les Lensois demain, alors?
Non, c'est pas si facile que ça. Alors, si tu regardes juste, c'est factuel, tu regardes les dernières perfs de Monaco à l'extérieur, tu dis que c'est catastrophique et que Monaco, même s'ils ont pas perdu à Nice, qu'ils ont pas perdu au Havre, franchement, quand tu vois les prestations à l'extérieur, le fait de pas avoir gagné depuis le mois d'octobre à l'extérieur un match de Ligue 1, d'avoir pris souvent des branlées à l'extérieur, je suis désolé du terme, mais des fessées.
Ça va que Max parce commande qu'à domicile.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Monaco, bien sûr, c'est montre à travers ce parcours-là que c'est une équipe moyenne cette année. Il est là le problème. Après, ça reste quand même une équipe qui participe à la Ligue des Champions, donc qui sait élever son niveau par moment. Alors pas suffisamment, en effet, et surtout à l'extérieur, je viens de vous le dire. Mais elle est capable d'évoluer à un très bon niveau quand même. Alors est-ce qu'ils seront dans cette configuration-là demain? Je le sais pas. Et même son entraîneur, il est sceptique parce qu'il sait pas comment ses joueurs vont le manger, parce qu'il y a un vrai problème d'état d'esprit dans ce groupe à Monaco. Il y a des bons joueurs, je dis pas des grands joueurs, des bons joueurs, mais ils ont par moment pas appuyé sur le bon bouton, tu vois. Et donc en effet, Lens en se disant ça va être un Monaco du style le match à Nice ou le match au Havre à l'extérieur ou toutes les défaites là que je viens de citer, je pense que Lens va gagner. Et même en préparant le match, en se disant oui, bon, ça va, on joue Monaco qui est huitième au classement, ils sont largués, ils ont rien. Voilà. Par contre, en effet, si Monaco évolue à un bon niveau, vaut mieux que Lens se dise ce match demain.
Il est très dur.
Il est très dur à gagner et ça fait partie des tournants de la saison. Ouais. Parce que si demain ils gagnent, ils battent déjà un record. Djibo, il vient de le dire. Ouais. Et c'est pas anodin. Ah, bien sûr que c'est pour les chiffres. Le record, ils s'en foutent. Peut-être que l'année prochaine ou dans 10 ans, les joueurs qui l'ont fait, ils s'en souviendront pas. Ouais. Mais par contre, ça sert dans la confiance que t'as au Stade Bollaert de conquérir ce stade, d'avoir les supporters qui y croient d'autant plus parce que t'auras une journée de passé encore. Il en restera plus que 11 derrière et ils vont croire et on sait pas. Bon, le PSG a la chance de recevoir Metz demain, donc je pense qu'au contre Metz, ils vont pas se rater. Donc il y aura toujours ce petit écart si Lens gagne d'un point. Ouais. Mais quand même, c'est bon signe, tu gagnes une journée de plus.
Tu bats un gros.
Et je pense que, très honnêtement, avant de se déplacer à Strasbourg, qui ne sera pas un match facile, et puis d'aller à Lyon en Coupe de France, où c'est quand même deux objectifs aussi qui vont arriver très vite, c'est vaut mieux bien démarrer ces matchs tournants. Et celui-là, demain, vraiment, j'y crois, je crois vraiment que c'est un match tournant. S'ils n'arrivent pas à le gagner,
t'auras des doutes, tu diras
oui, parce que derrière tout le monde dira ah ça y est, le PSG est repassé devant, puis le déplacement à Strasbourg il est périlleux, et c'est vrai parce qu'à Strasbourg il y a beaucoup d'équipes qui ont pris le bouillon, à commencer par le PSG, même s'ils sont imposés, donc ça sera compliqué. Puis après il y aura le déplacement Coupe de France, ah ça y est, maintenant ils sont dans le dur et peut-être qu'on parlera plus de titre. Et moi ça serait alors, triste de s'arrêter là.
Jean-Mi, est-ce que c'est un tournant?
Ouais, c'est tous les matchs là. D'abord, l'histoire du record là où battu, je n'y crois pas. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis.
Oui,
c'est
là,
le cadet
bien sûr.
De leurs soucis. Ouais. Ça, je pense. Ouais, il nous est arrivé de battre des records avec mon club. Mmh. On l'a su après. Hein, ouais. Mais c'était quand on jouait.
Record collectif, tu t'en souviens pas?
Ah oui, c'est ça.
Les records de passes décisives, tu t'en souviens, oui.
Ah,
surtout toi.
C'est pour en arriver là.
Simplement, il y a quand même, et tu l'as, je ne sais pas qui est-ce qui en parlait, si c'était Djibo ou toi, Jérôme.
Bon, ça doit être moi,
ça va se jouer sur l'état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, entre des Lensois remontés comme des pendules à Bollaert et qui prennent goût à la place qu'ils occupent, et l'AS Monaco qui alterne, parce que le 3-2 contre le Paris Saint-Germain, je le répète, le ballon, ils l'ont quand même pas beaucoup vu, hein, les Monégasques.
Ah, c'est Max qui le disait, ouais.
Ah, oui, beaucoup ça, couru, c'est sûr.
Ça a été quand même un bon petit 20 km pour les Monégasques. Ils ont pas touché le ballon.
Est-ce qu'ils ont avalé la trompette?
20% de possession.
Oh, c'est pas
ils ont avalé la trompette.
C'est pas la trompette, c'est l'orchestre entier qu'ils ont avalé.
Je pense qu'il y avait l'orchestre. Je pense
la grosse caisse avec.
Ils ont même bouffé le chef d'orchestre, je crois. Non, mais c'est une équipe quand même qui, on le sent moralement, on peut pas prendre exemple sur elle.
Enfin, c'est sûr.
J'ai le sentiment quand même que se faire violence pour les Monégasques, c'est pas dans leur ADN. Ouais. Voyez-vous,
ça c'est sûr.
Et je pense que dans ce match-là, celui qui se fera le plus violence, je mets plutôt un petit billet
sur Lens que sur les Monégasques. Voilà. Exactement,
voilà. Steve.
Bah, de toute façon, on voit très bien que Lens est habité par une mission qui est au-dessus d'un objectif. Lens, voilà, est sur des résultats, des contenus de match, des attitudes. Honnêtement, ça serait pas dégueulasse un champion de France comme ça. Franchement, faut pas se dire. Non. Faut se dire. Ils ont vraiment. Non, non, mais c'est parce que ça serait pas dégueulasse, tu vois. Ça serait vraiment un beau champion. Ils font une saison incroyable. Et puis on l'a dit, mais c'est surtout ce qui dégage. On a des joueurs, on a Flo Thauvin, on voit une nouvelle jeunesse de sa part, on voit un Nalan, on voit un effectif qui monte en puissance. Alors, où est-ce que va être leur plafond de verre? C'est un petit peu le problème. C'est qu'on sait pas trop vraiment.
Pour l'instant, ils l'ont. On voit plus ou moins où il est. C'est que les matchs à haute pression sur les déplacements, que ça soit à Paris ou à Marseille, par exemple, pour l'instant, ils ont pas fait des gros matchs. Non, mais c'est vrai.
Ils
ont battu Marseille à Bollard. Ils ont battu Lille.
T'as aimé le match à Marseille. T'as aimé le match au Parc des Princes.
Ce qui est intéressant, c'est le rebond derrière.
C'est sûr.
Tu perds à Marseille et psychologiquement derrière, là, t'es sur quatre victoires. Tu perds pas le fil.
Djibo, ce que je veux dire, c'est que ces matchs-là. Outre le fait que l'adversaire peut évoluer à un meilleur niveau, donc là il faut monter son niveau.
Ils ont
eu du mal. C'est que les matchs.
Erreur de compo sur Marseille de la part de Pierre Sage qui s'est expliqué, qui a dit oui, j'ai pas été bon en mettant Aguilar côté gauche.
Il avait appelé De Zerbi juste avant, donc. De Zerbi lui avait donné des clés, mais c'était pas les bonnes.
Est-ce que c'est une erreur?
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit.
Les gars, est-ce que c'est une erreur de se focaliser sur le week-end du 12 et ce fameux lance PSG? Est-ce que on y est,
c'est
trop tôt?
C'est une erreur. Non, mais ça c'est un truc de médias, ça. Mais tu crois
que c'est un truc de journaliste?
Ils le disent. Nous, on les force pas à aller à le dire.
Et t'as tout un mois de mars à faire, les gars.
Pierre Sage l'a dit. Il a dit, on verra, on fera le point ce week-end-là si on est encore dans la lutte.
Mais ça veut pas dire qu'ils y pensent aujourd'hui.
Si, ça veut dire qu'ils étaient obsédés par ce match.
Mais non, ça veut dire.
Tournant, vous pensez pas que ça peut être ce match-là, franchement. Psychologiquement, si Paris tape Lens, c'est qu'ils prennent 4 points là.
Mais ce tournant, non,
c'est pas. Ou l'inverse.
Djibo, c'est à moi, tu sais pas où ils sont.
Je sais, mais Paris à la Ligue des Champions entre temps.
Djibo, si tu perds demain ou tu gagnes pas contre Monaco, que Paris gagne, parce qu'ils vont gagner contre Metz. Le week-end d'après, tu vas à Strasbourg, tu gagnes pas et que Paris gagne. Tu penseras au match, la réception de Paris? Non, parce que tu penseras déjà à conserver ta deuxième place, voire la troisième, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est trop tôt. Et bien sûr qu'ils en pensent pas, ils pensent pas à ça, les joueurs. Du moins, s'ils pensent que, il y aura une finale le 12 avril, ou le week-end du 12 avril. Ouais. Voilà, franchement, c'est.
Et tu finis à Lyon, il faut pas l'oublier, parce que Lyon, tu auras le dernier match quand même à Lyon pour la dernière journée. Mauvais souvenir d'ailleurs pour les Lens.
Si on se projette pas au 12 avril, on va pas se projeter à la dernière journée.
Écoute, si tu te projettes à la dernière journée, imagine la dernière journée, parce qu'aujourd'hui, vu comme ça, bien sûr que c'est un déplacement compliqué, mais déjà, on connaît pas le classement de Lyon à la fin de saison, imagine Lens est devant au classement et il faut aller s'imposer absolument.
Ah oui.
Bon, je mettrai une petite pièce.
Lyon a besoin de s'imposer pour rester troisième.
Voilà. Je mettrai une piécette sur Lens.
En tout cas, le scénario de voir ce match du week-end du 12.
Mais tout le monde le veut. Nous les
Lens
premiers.
Lens PSG, bien sûr. Ce serait
on espère
un
avoir
magnifique
un week-end
scénario.
À la suspense, évidemment.
Déjà, il y aura le derby du Nord avant.
Une semaine avant.
Exactement. Allez, 19h22 sur RMC, le tour des stades dans le multiplex de Rotten sans flamme. Démarrons par Pierre-Yves Leroux.
Ah ouais, Pierre-Yves.
Avec cette décision, Pierre-Yves, on va maintenir Angers-Lille, mais à huis clos.
Et oui, exactement. Vous savez que c'est compliqué du côté d'Angers avec les inondations. Donc il y avait vraiment de la part du préfet du Maine-et-Loire le souhait de reporter ce match. Les deux clubs souhaitaient jouer, mais ne connaissaient pas forcément les modalités. Et puis finalement, la LFP a tranché pour ce huis clos. Donc parce qu'en fait, la principale inquiétude concernait les accès pour les supporters et puis l'utilisation des forces de l'ordre sur les zones inondées. Pour un report, en fait, il fallait que le match ne puisse vraiment pas se tenir. Résultat, eh bien pour le SCO d'Angers, c'est une perte financière de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et Jérôme Negroni, le directeur général du club qu'on a eu du côté de RMC Sport tout à l'heure, expliquait il y a quelques minutes, c'est la double peine financière et sportive parce que les supporters seront pas là pour pousser derrière leur équipe. Donc le club étudie aussi les dispositifs financiers compensatoires qu'on va mettre en place pour les fans.
C'est vrai.
En tout cas, ce sera un match à huis clos.
C'est vrai que c'est une drôle de décision. Surprenant. Huis clos, on maintient le match.
Complètement con.
Et sans supporters. Ouais, mais les gars, il y a quand même des choses, les forces de l'ordre, là, c'est quand même plus utile.
Ah, mais d'accord, mais pourquoi pas le reporter?
Dans ces cas-là, tu le reportes. Si tu peux peut pas.
Oui, oui, mais parce que tu sais
très... en Coupe de France, par exemple.
En plus, ouais, t'as raison.
Bah non, mais franchement, à huis clos, on en a eu assez des matchs pendant le Covid à huis clos. On sait ce que ça donne.
C'est une catastrophe, ces calendriers. Il n'arrive pas. Je ne sais pas qui est-ce qui est à la manœuvre, mais c'est...
Bah, il y a Jean-Louis Tour. Ah non, Vincent Labrune.
Jean-Louis Tour. Il dit ça parce que c'est la même coupe de cheveux. On embrasse Jean-Louis qui prendra la main à 20h40.
Ah, même.
Ouais. Maxime Tilliette, comment va faire Nice sans Eli Wahi alors? C'est ça l'inquiétude.
C'est la grande question. Hein, et
comme ils en font pour 6 mois.
c'est le risque en effet parce que c'est
avec
vrai que Wahi.
Carlos.
Wahi, il est rapidement devenu le danger numéro 1. De par son profil, son adresse devant le but, son instinct. Mais voilà, l'entorse de la cheville va l'éloigner des terrains plusieurs semaines. Et tu parlais, Steve, de Kevin Carlos. Il arrivait contre 6 millions d'euros l'été dernier, mais il ne met pas un pied devant l'autre. Seulement 2 buts en quasi.
Parce que les deux pieds, c'était 12 millions.
Deux matchs.
Les deux pieds, c'était 12 millions.
Non, bah, le plus probable, c'est que Mohamed Ali Chow retrouve une place axiale, comme c'était le cas face à Lyon en cours de rencontre. Et puis derrière, il y a des jeunes qui, sur les côtés, notamment Kyle Boudache et Gabin Bernardo, auront un peu plus de temps de jeu et l'opportunité de se montrer, mais ça va devoir un peu tout réorganiser.
Et puis Djibo, parle-nous de la colère qui monte chez les supporters lillois. On vit très mal cette mauvaise série et une nouvelle fois cette défaite hier en Ligue Europa.
Ah, en tout cas, ils ne pourront pas crier des Genesio démission à Angers, puisque c'est à huis clos. Ouais. Non, c'est vrai que ça devient tendu avec les supporters. On l'a vu hier, le non-match des Lillois. On va rappeler une victoire seulement en 10 matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 points sur 18 pris en Ligue 1. Et hier, ça a bien grondé. Bruno Genesio donc a été secoué aussi verbalement par les supporters. Et dans cette tristesse de résultat, quand on regarde le classement, Lille est encore cinquième, donc il y a encore de l'espoir. Mais il va falloir réagir vite parce que le Lille-Nantes de dimanche prochain risque d'être très tendu s'il y a défaite à Angers et si forcément pas de qualif, ce qui semble probable, contre l'Étoile Rouge de Belgrade.
Et justement, on parle de Nantes dans un instant avec Pierre-Yves Leroux, Ahmed Kantari déjà sur la sellette. Info JR25 à venir aussi. Un autre entraîneur de Ligue 1 est en danger. Restez avec nous, Roten sans flamme jusqu'à 20h avec nos correspondants, avec Jean-Michel Larquet, Steve Savidan et Jérôme Roten jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC. On est là dans Roten sans flamme. On finit l'émission, la dernière demi-heure de Roten sans flamme de ce vendredi soir. Veille de vacances sur la région parisienne. Donc on est là, on est bien avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et Benoît Boutron. Dans 15 minutes, ça sera le quiz pour finir la semaine en beauté avec Louis Gervier, un super cadeau à vous faire gagner.
Ouais, enceinte portable de la marque française Muse, 3216 touche 4 au quiz par SMS au 73216.
On continue les petites dernières infos pour la 23e journée de championnat de Ligue 1.
Avec nos correspondants Jean Baumel, Maxime Tilliette et Pierre-Yves Leroux pour parler de cette forte tension sur le FC Nantes, réception du Havre dimanche à 17h15, encore et toujours. Et on a l'impression de se répéter.
C'est un problème d'entraîneur.
Ah bah justement, on va en parler. Nantes avant-dernier, 5 défaites de suite, le Havre 13e, ça va mieux pour les Havrais avec 2 victoires d'affilée. Grosse pression, Pierre-Yves, autour d'Ahmed Kantari. Il est arrivé seulement le 11 décembre, il a succédé à Luis Castro. Est-ce qu'il résisterait à une défaite, à ton avis? Est-ce que tu as des infos?
Surtout, je vais vous annoncer un futur record, peut-être. Je sais bien que les joueurs, vous le disiez tout à l'heure, on s'y attache pas. Mais là, Nantes va vers un record égalé, en tout cas. 6 défaites consécutives, c'est arrivé une fois dans l'histoire du club. C'était en 99.
On s'en rappelle pas.
Et c'était avec Reynaldo Noëx, qui sera champion un an et demi plus tard. Donc, c'est une époque où on laissait du temps au coach. Depuis, il y a eu 30 entraîneurs. Hein. Donc, après 8 matchs au banc et une seule victoire face à l'OM, on se demande vraiment s'il y avait de Kantari pourrait être là pour la fin du championnat. Je ne peux pas vous les faire dans l'ordre, je peux vous en citer quelques-uns.
Non, Jean-Michel fait le kit à circus, là, c'est pour ça.
Non, mais Ahmed Kantari, aujourd'hui, c'est le pire bilan de l'histoire des entraîneurs du club. Hein. C'est pire que Domenech quand il était passé.
Non, comment il a.
Parce qu'il y avait eu des matchs nuls. Il y avait eu quelques nuls.
Mais il n'a pas gagné un match, Domenech.
Kantari, il a gagné à Marseille.
Il y avait 4 nuls. Oui.
Ah oui, 4 nuls, donc 4 points.
Ça fait 4 points.
Pour être nul, c'était nul.
Seulement, il avait eu Maradona. Évidemment, il y a une grosse tension. On a posé la question à Ahmed Kantari ce midi, qui lui garde sa ligne. Estime que.
Il y a des fois qu'il la garde. Moi, je serais lui, je sauterais la ligne. J'irais sur une autre ligne.
Est-ce qu'on peut écouter Ahmed Kantari? Écoutons-le.
Le problème, c'est.
Moi, je repartirais dans l'autre sens.
Le problème. Benoît, c'est que je vais te parler à Benoît directement. Je sens qu'ils sont pas concentrés.
Merci,
c'est vendredi.
Ah oui.
Oh non, Pierre, mais bon.
Le problème, c'est qu'il y a l'urgence, mais que de l'autre côté, il y a des joueurs qui viennent d'arriver en fait. Face à Monaco, au coup d'envoi, il y avait 5 joueurs qui étaient arrivés au mercato. Donc forcément, les automatismes, c'est compliqué à mettre en place très rapidement. Et pour Ahmed Kantari, ce match contre le Havre est très très important parce qu'on rappelle que derrière, il y aura aussi une double confrontation en 8 jours. Le 12 avril, vous avez parlé d'un gros match, mais il y aura aussi un Metz-Nantes, ça sera peut-être moins suivi.
Ah ouais.
Et juste avant, il y aura eu Auxerre-Nantes, donc 2 matchs à l'extérieur dans cette lutte à 3. Est-ce que Ahmed Kantari sera toujours là? Ça, c'est pas certain, parce qu'on peut imaginer que Valdemar Quitta, s'il y a une 6e défaite consécutive à domicile dimanche, puisse avoir envie effectivement d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton.
Et là aussi, on parlait de colère des supporters lillois, des supporters nantais.
Je pense qu'il va être patient, Quitta, quand même.
Ouais, évidemment. Non, mais est-ce qu'il ferait une erreur s'il se séparait d'Ahmed Kantari?
Mais l'erreur, ça a été déjà de donner les clés du camion à Castro et de dire tu vas faire avec des jeunes et au bout de quelques matchs il en avait déjà marre de Castro et que avec des jeunes forcément tu sais, en plus il y a jeunes et jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent tout de suite évoluer à un bon niveau. On a très vite vu qu'ils n'avaient pas le niveau. Alors peut-être qu'ils l'auront plus tard. Hein. Certains jeunes, il n'y a pas de problème. Mais étaient rattrapés par la pression des résultats. La Ligue 1, elle est difficile.
Jérôme, je ne sais plus si tu t'en rappelles, mais je t'avais parlé du niveau des jeunes, justement, parce que je suivais ce championnat et surtout cette équipe, le FC Nantes, en 19 et en National 3. Et honnêtement, je vais te le dire, moi je les avais regardés pratiquement, honnêtement, 2 matchs sur 3. Ils avaient un très bon niveau.
Oui, mais chez les jeunes, tu sais très bien.
Ce que tu dis.
Tu sais très bien, il y a un
fossé.
C'est qu'ils
ont été floués. En fait. Ils se sont dit, tiens, on va tous les mettre ensemble. Et
mais comment tu peux penser ça quand t'as autant d'années propriétaire d'un club comme Nantes, autant d'années, parce que c'est pas un novice qui t'a. Alors après, il a des gros défauts, mais certainement que le foot, il comprend un petit peu quand même. Tu vois. Alors après,
il y avait aussi Jérôme peut-être l'ambition de faire des économies dans un.
En plus,
c'est ça, je pense.
Mais c'est vrai. Mais là où.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il a fait une connerie incroyable de virer Castro pour nous mettre Kantari. Mais Kantari, il a prouvé quoi, Kantari? Pour arriver là en tant que numéro 1, il était adjoint de Camboire. D'accord. Donc Antoine, ben quand t'es adjoint,
c'est pas Valenciennes, en numéro 1.
Vous avez tout dit. Donc forcément, ouais, Jérôme, quand tu prends Kantari,
je n'en veux pas. C'est ça que je veux dire.
Non, je n'en veux pas à Kantari. Je suis pas là en train de dire Kantari, il aura jamais le niveau d'entraîneur de Ligue 1.
Et je lui souhaite. Mais tous les profils étrangers, français.
Mais quels profils? Castro avec toute la réussite qu'il a eu à Dunkerque pour mettre Kantari.
Écoutez-moi.
Mais qu'est-ce que vous vous focalisez sur les entraîneurs à Nantes?
Oui, c'est ce que j'allais te dire, moi, Jean-Michel.
Vous pouvez vous focaliser aussi souvent, vous pouvez faire revenir.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Même les meilleurs entraîneurs du monde, même les 5 meilleurs dans. Il n'y a pas de joueurs.
C'est pas Ranieri qui
est venu. Il n'y a pas de joueurs.
Ranieri est passé, quand c'est Sao est passé, il y a eu des bons entraîneurs.
Et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Depuis des années, c'est fait avec des bouts de ficelle, ces équipes nantaises.
Oui.
Donc, à un moment donné, vous êtes rattrapé par la patrouille et vous allez descendre.
De toute façon,
répondez à ma question, est-ce qu'il faut s'en séparer s'il y a des faits?
Mais tu t'en sépares ou tu ne te sépares pas. De toute façon, le résultat est le même.
Mais il va sauter.
Tu es au fond du trou.
Je te dis qu'il va sauter.
Ouais.
Il va sauter parce que Pierre-Yves nous disait. Non, mais Pierre-Yves nous parlait du match de ce week-end.
Oui.
D'accord, vu comme ça, tu te dis, le Havre. Mais le Havre, c'est une bonne équipe.
Ah bah oui.
D'accord,
c'est
avec les moyens. Équipe. Donc le Havre est une bonne équipe. Tu verras que Nantes,
et c'est vrai.
Ils sont pas du tout au niveau du Havre.
Ouais.
Et je pense que le Havre, en venant, en se disant là pour de bon, on va s'assurer le maintien si on fait un résultat positif, ils ne perdront pas à Nantes.
Ouais.
Et donc qu'est-ce qui va se passer? Quitta, comme l'a dit Pierre-Yves, il va péter un cap parce que 6 défaites de suite ou peut-être un match nul, il va dire c'est pas suffisant. Allez. Voilà. Je dégage l'entraîneur.
Et qui va y aller?
Et qui va y aller?
Bah ouais. Il se mettra
Mais Ziani veut pas.
Ziani ne veut pas.
Bah oui.
Ah, c'est bien. Il est suspendu de banc en plus.
Bah oui. Bon, Pierre-Yves, on suivra ça. 17h15.
Sans Abline pour Nantes.
Sans Abline en plus. Donc Nantes-Le Havre à suivre sur RMC. Est-ce que vous voulez une info JR25?
Oui.
Vous êtes prêts?
Bien sûr.
Eh ben, on y va. Ouais,
vous l'attendez.
L'info JR25.
Vas-y, Jérôme.
JR25.
Allez, montre comme t'es grand, Jérôme.
Alors, non, mais on parlait de Kantari qui était en difficulté. Bon, bah, en effet, on avait quelques rumeurs et je me suis renseigné aujourd'hui. J'ai échangé avec des gens du Paris Football Club. Okay. Et en effet, Gilly, ses jours sont un peu comptés, en fait.
Stéphane Gilly est en danger, alors.
Ouais, en danger sur le déplacement à Toulouse. Alors après, c'est un peu la période qui veut ça parce que la série est pas bonne du côté du Paris FC. On peut reprocher beaucoup de choses à Stéphane Gilly, mais c'est surtout les résultats et le fait que ils avaient un petit matelas d'avance sur le premier barragiste.
Ils en ont 5 points encore d'avance.
Ouais, ils en ont 5, mais
c'est le premier non barragiste.
Auxerre va recevoir Rennes ce week-end. Ouais. Donc on peut se dire peut-être qu'ils vont être sur une bonne dynamique, que t'as le Havre-Nantes comme tu l'as dit, Steve, mais t'as surtout Paris FC qui va en déplacement à Toulouse, ouais, qui est pas facile. Et on me dit que si jamais il y a pas victoire au Paris FC, très certainement il y aura un nouvel entraîneur sur le banc du Paris FC. Non, il y a eu déjà quelques quelques.
Mais déjà, c'est une info parce qu'on nous disait que Gilly était.
Il y a quelques noms qui sont plus ou moins sortis comme ça. Moi, je les dirais pas parce que déjà, on m'a dit de pas le dire forcément.
C'est une info en fait.
Mais non, bah si. Je viens de te dire que
des demi-matchs.
Je viens de te dire que il y en a eu quelques-uns, c'est vrai. S'il y a pas victoire à Toulouse, je pense en effet que Gilly sera plus sur le banc la semaine prochaine.
Je me permets juste de dire que les infos JR25, c'est 100% de réussite depuis que le concept a été inventé.
Ouais. Voilà.
Mais s'il dit la moitié des choses, tu m'étonnes, il a la moitié.
C'est une info. Et s'il y a pas victoire à Toulouse, Gilly en grande difficulté, qui peut sauter du Paris FC.
Ouais, c'est un match nul.
Oui, puis, écoute, on sait qu'un entraîneur est viré à Nantes, c'est quand même un peu facile.
Ah ouais. Non, mais Nantes, oui, t'as moins de.
Non, Pierre-Yves, rappelle-toi la dernière fois quand j'ai sorti.
Tu sais que ça va se passer.
Rappelle-toi quand j'ai sorti cette info en disant Castro, s'il ne gagne pas. Voilà, mais ils n'avaient pas perdu, donc ils l'avaient gardé une semaine après, il était dégagé. Voilà.
Merci à Pierre-Yves Leroux, merci à Jean Baumel, merci à Maxime Tillier.
Soyez bon.
Ce soir,
surfez,
c'est Brest
sur la dynamique, ma
Olympique
dynamique. Allez-y.
20h45.
Et Jean, fais ce que tu peux.
Voilà.
Merci avec toi. Et quand on a parlé d'avaler et de manger tout l'orchestre, t'étais pas concerné.
Ah d'accord. Donc ne mangez pas de trompette. Merci, c'est l'info de cette fin de.
Que des frites et des cannelles.
Allez, dans un instant, le dernier coup. Quiz de la semaine, tous contre Rotten avec
la frite sans sas, on les
Louis
embrasse.
Gerbier. C'est parti.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h45 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme. On finit les deux heures de Rotten sans flamme avec le quiz de Louis Gerbier. On va vous faire gagner un super cadeau. Deux auditeurs vont arriver dans un instant avec un qui va jouer avec la formidable équipe très soudée, très solide, Savidan, Larquet. Moi, je suis tout seul.
Ouais.
Voilà, comme d'habitude, hein, de toute façon, on est vraiment seul contre tous.
Bah, c'est un peu individualiste, toi.
J'ai un producteur qui est vraiment contre moi.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Écoute, je vais y arriver à gagner. J'ai gagné hier, donc je peux être dans une semaine positive.
20h, l'after JO et 20h45, le coup d'envoi de Brest, Olympique de Marseille. Mais tout de suite, c'est le grand moment.
RMC. Tous contre Rotten.
Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Alors.
Salut.
Toi, t'es pas contre moi, les gars. T'es neutre.
Tu sais bien que. Oui.
En tant qu'arbitre, je vais vous demander de la discipline. Chacun s'écoute et on écoute bien les questions pour pouvoir y répondre efficacement. D'accord ? Il y a de l'enjeu, il y a un beau cadeau.
Là, à mon avis, il y a eu recadrage des chefs.
Non, mais il y a de l'enjeu et parfois on n'entend pas les questions. Donc pensez que à tous ceux qui nous écoutent, c'est un peu excluant.
C'est fait bouger par
Grégory et Alexandre vont s'affronter ce soir. Salut à vous deux.
Bonsoir à tous.
Salut Alexandre.
On va passer des messages.
Salut Karim.
Grégory, tu es supporter d'Arsenal, tu veux jouer avec qui?
Avec Jérôme, j'ai déjà perdu avec lui, je vais gagner un jour.
Aïe. Tu veux jouer avec Jérôme. Grégory, si tu perds le quiz, Arsenal ne sera pas champion d'Angleterre, ok?
Oh, je suis déjà dans le mal.
Il est déjà en panique pour Arsenal, le pauvre. Et Alexandre, tu seras avec le reste du monde, ok?
Bon courage, Alex. Tu vas voir, ça va bien se passer.
Le cadeau, c'est une enceinte portable de la marque Muse. Louis, j'ai fait la loi, donc là, normalement, tu vas être...
C'est super sympa. Le thème, c'est l'homme de la semaine.
Ah. Jérôme?
Arrête, j'aime pas qu'on parle de moi.
Habib Bey.
Le grand Habib.
Monsieur Bey.
On l'a fait hier, ça.
Non, on l'a pas fait hier.
On l'a fait avec Loïc Moreau, mais mardi.
Ah, mais on l'a fait avec Loïc.
Oui, mais c'est une autre personne, donc oui, les questions seront différentes.
Tu vas voir que moi, c'est sur ces anciens.
On va voir si c'est mieux.
C'est
mieux.
C'est vrai, on pourra juger. On aura un élément de comparaison.
Oh, vous savez. question Luis Enrique.
Allez.
Vous savez combien de points nous avons moins que l'année dernière?
On n'avait pas étudié.
La question Luis Enrique.
Alors.
Combien de matchs a-t-il dirigé au Stade Rennais, Habib Bey? Le plus proche gagne. 17. Non. 17, ça fait
plaisir. Vas-y, à toi, Jean-Michel.
Non, oui, tu me prends pour quoi?
pour la peine de système. Sois juste, je te laisse, c'est l'âge.
Allez.
Alors, il est resté quasiment.
Ouais, mais c'est. Normalement, ça doit sortir comme ça.
Oui, allez jouer.
Je pense 34.
40.
34 et Jean-Michel?
35.
C'est 39, bonne réponse.
Bravo Jean-Michel.
Incroyable, super.
Belle tactique.
Oh, qu'est-ce que je suis fort. La vache.
À deux doigts de me foutre en l'air mon chrono, mais. C'est ça. Question larguée.
Allez, la routaine.
Qui n'en veut pour les jeunes?
T'es un truand. Rotten aussi. Écoute, je sais pas. C'est toi le truand là sur le coup.
Quel ancien bleu des années 90 a été son coéquipier à Strasbourg au début de sa carrière?
Le Dacourt.
De quoi? Vas-y, Rodi.
Quel ancien bleu des années milieu offensif. Quel ancien bleu des années 90 a été son coéquipier à Strasbourg?
Marc Keller.
Pires.
Non, à Strasbourg.
Pouget.
Pouget. Non.
Là, c'est à Metz.
Il est né à Brest.
Ah.
Mais il a
Coco Martins.
Mais il a un nom qui fait pas trop breton.
Corentin.
Coco.
Un partout entre Jérôme et le
Coco Rico.
Bon bah on a eu la question larguée, question Salidon.
Ah bah oui.
Bah c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi cette question?
C'est quoi la question?
Je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur qui a fait que des clubs pas hyper florifants, quoi.
Ah ouais. Un peu comme Steve.
Ouais, comme...
T'aimes bien la rajouter, Ben.
T'arrêtes, Benoît.
T'as une gimmick ou quoi? C'est marqué dans le script ou quoi? Tu peux la rajouter juste après.
C'est Karim qui nous dit de le redire à chaque fois, donc on le dit.
Karim, c'est fait.
On cherche un ancien.
Karim Nedjari qu'on embrasse.
Un ancien coéquipier d'Habib Bey au Racing Club de Strasbourg.
Ah.
Stade Rennais, Stade Lavallois, FC Lorient, Ipswich Town.
Oh. Ipswich.
Ipswich Town.
Ouais.
Strasbourg, excusez-moi. Strasbourg toujours, FC Lorient de nouveau, Belle Stade Lavallois de nouveau.
Oh, mais attends, il a été puni combien de fois, lui?
Il a de la pluie.
Non, ouais. Stade Lavallois deux fois. Non, mais ouais. Non, mais ça va pas.
Et c'est un français?
Oui, il est français.
Ah, bah oui.
Et il a un nom. Avec un mélange.
Le Pen.
Ulrich Le Pen.
Bravo.
Un mélange d'Allemagne et de Bretagne.
2-1 pour le reste du monde et pour Alexandre.
Magnifique pied gauche.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah là là, attention.
Très très bon pied gauche.
C'était pas à la droite, lui?
Non.
Ah, excellent.
Une blague grande gueule.
Bravo. Oh, bien joué.
Question con.
Qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Ah, j'en ai deux. Hein.
Préparez-vous, attention.
Non, mais franchement.
Ça peut être rapide. Allez, là. Si. Quel ancien coéquipier d'Habib Bey à Strasbourg et Marseille est un personnage du Muppet Show?
Mamadou Niang.
Non. Personnage du Muppet Show.
Ah, est-ce que vous connaissez le Muppet Show?
Muppet Show.
Kermit.
Kermit Terrain.
Non.
Ziboja.
Louboja, personnage du
Muppet Show. Louboja. Drogba, Marley, Louboja.
Non,
Louboja.
Oui, Peggy.
Peggy
la
cochonne. La
coche.
Peggy.
C'était
la cochonne.
Bah oui, c'était ça, le Muppet Show. 3-1 pour le reste du monde.
Question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, opposé Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit. On peut dévoiler la coulisse ou pas? Non, si on regarde.
Non.
Non, on garde pour
nous. Arrête, Jérôme, arrête de tricher.
J'aime pas gagner en trichant.
Allez, quel gardien international connu pour son talent sur le terrain, mais ses sorties médiatiques sulfureuses, a été son coéquipier à Strasbourg?
Avec Chilavert.
Bravo.
Avec Chilavert.
Ça devient gênant. 4-1 pour le reste du monde.
Ça devient gênant. Allez, la Routaine. Allez, envoyez la Routaine.
Attention, il reste 2 minutes.
Attention pour Grégory. Je prends Arsenal va perdre le titre.
C'est quoi Joker.
Le Joker Kings League.
Et ça, c'est une dinguerie.
J'avais oublié celui-là.
Toujours Antoine aux manettes qui te le sort comme ça
réalisateur.
On l'avait
pour intérêt.
Dernière question avec Strasbourg. Question, votre préféré d'ailleurs. Question Berrichon.
Ah. Châteauroux un jour.
Alors, Louis, est-ce que je peux t'interrompre une seconde?
Aïe.
Tu me permets ou pas?
Bien sûr.
But à Laval.
Non, pas du tout. On donnera la compo marseillaise qui vient de tomber dans un instant, dès que nos correspondants seront là. Je vais vous la donner, parce qu'elle est sur rmcsport.fr. Rouli, Wea, Pavard, Raguer, Demerson, Hojbjerg, Vermeeren, Timber, donc trois milieux de terrain et trois attaquants, Guiri, Greenwood, Pechao. Voilà la première compo d'Abid Bey avec l'OM.
Voilà. C'est magnifique.
On en était
à la question Berrichon. On cherche le coéquipier d'Abid Bey avec qui il a joué le plus de matchs dans sa carrière. Ce joueur a terminé sa carrière pro à la Berrichon.
Le Roi.
Non. S'il a joué le plus de matchs avec notre ami Abid Bey, il a joué à Strasbourg.
D'accord. Écoute.
Et à la Berrichon.
Oh, Bertin.
Et ben voilà, Teddy Bertin.
C'est lui en plus.
Ben oui.
Bertin.
Et ça fait 4-3.
Question auditeur.
Grégory Alexandre.
Quel joueur.
Grégory le fan.
Chers auditeurs, quel joueur anglais, ancien coéquipier d'Abid Bey à Newcastle, a joué à l'OM plus tard dans sa carrière?
Steven Fletcher.
Non, plus simple.
Simple sur les côtés. Maïté.
Qui
Barney.
Joey
Barton.
Oui,
Barney. Qui a dit Barton?
Magnifique.
C'est Alex. Ça fait 5-3 pour Alex et le reste du monde.
Tiens la Routaine.
Stop.
La bonne réponse vaut 3 points.
Combien?
3 points.
Il va être sauvé par la Routaine.
Combien?
3 points.
Allez,
3 points.
Allez, on finit. On finit cette semaine sur une balle de match.
C'est la saison d'Arsenal qui se joue là.
Avec la question Papin. Quel ancien coéquipier de Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG?
Tu peux répondre ou pas?
Oui.
Jérôme Pancrate.
Donc, vous la connaissez désormais.
Ah putain, celle-là, je m'en
remets. Le joueur que je cherche, vous l'appelez Jérôme, quoi qu'il en soit.
Voilà.
Quel vice-champion du monde fut son coéquipier en championship à Doncaster?
Oula.
Vice-champion
du monde.
Abid Bey.
Jérôme Ramy?
Non.
Ah non, à Doncaster.
Non, parce que Ramy, il a été champion du monde.
Doncaster?
Ouais.
Vice-champion du monde.
Jérôme Charbonnier?
Non, parce que Charbonnier a été champion du monde.
Ouais.
Jérôme Charbonnier. À découvrir sur muse-europe.com.
Et en Espagne.
Merci à Louis Jardier. Merci à Jean-Michel Marquet, à Steve Savidan.
Merci Jean-Mimi.
Merci Jérôme Bretagne.
Merci mon Stevie.
Dans un instant, l'After JO avec Christophe Cessieux. Et puis à 20h45, le coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1. Brest Olympique de Marseille.
Gros match ce soir. Restez bien. Écoute d'RMC. Et nous, on se retrouve après ce week-end de Ligue 1, encore une fois, avec beaucoup de surprises, beaucoup d'actu lundi. Comme toutes les semaines, du lundi au vendredi, Rotten sans flamme ne s'arrête jamais de 18h à 20h et lundi on sera en forme. Passez un bon week-end, je vous embrasse, faites attention sur la route, vous êtes nombreux et profitez des vacances. Bisous, à lundi.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.